bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 28 mars, il est 10h du matin, ou peut-être 10h du soir, si vous nous écoutez en podcast. Mais jour ou nuit, peu importe, car rien ne périt, tout se transforme, et le dieu qui conduit le char du soleil n'est jamais bien loin lorsqu'il cède la place aux constellations de la Voie lactée. Direction l'Italie, en compagnie d'Ovide et de ses sublimes métamorphoses, mais avant de rejoindre l'Empire romain et le règne d'Auguste, petit détour par les Abruzzes, où le récit qu'Alfred de Musset fait de son séjour en Italie dans une lettre à son frère, ou comment un seul mythe peut donner lieu à d'innombrables métamorphoses à travers les âges. En route donc sur les chemins de la philosophie, la parole est à Georges Brassens, chantant Alfred de Musset qui rend hommage à Ovide.
Ainsi mon cher, tu t'en reviens du pays dont je me souviens comme d'un rêve. De ces beaux lieux où l'oranger naquit pour nous dédommager du péché d'Ève. Tu l'as vu, ce fantôme altier qui jadis sut le monde entier sous son empire. César, dans sa pourpre, est tombé dans un petit manteau d'abbé. Sa veuve expire. Quoi qu'il en soit, il est certain que l'on ne parle pas latin dans les Abruzzes. Et que jamais un postillon n'y sera l'enfant d'Apollon, ni des neuf muses.
Bonjour Jean-Luc Lévrier.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de latin en classe préparatoire aux grandes écoles littéraires au lycée Saint-Sernin à Toulouse. Et c'est vous qui allez nous parler d'Ovide aujourd'hui, des métamorphoses d'Ovide qui nous accompagnent cette semaine. Dans la chanson de Brassens, reprenant le texte de Musset, on entend cette phrase « On ne parle pas latin dans les Abruzzes et jamais un postillon ne pourra répondre au nom d'Apollon ». On croit entendre Ovide lorsqu'il est exilé et qu'il se plaint du fait que personne ne parle latin où il se trouve, hein, au Pont Euxin, et que finalement l'écart de la langue est tellement grand que ça le déprime complètement.
Oui, effectivement. À la fin de sa vie, le pauvre Ovide, qui jusque-là avait été un poète adulé par ses contemporains, le pauvre Ovide va se retrouver exilé au fin fond, au fin bout de l'Empire, dans un tout petit village qui s'appelle Tome. Et il sera entouré de gens qu'il présente comme des barbares, comme des sauvages, qui ne parlent que le dialecte local, le jette. Et par conséquent, il est amené à dire, c'est quelque chose de tout à fait poignant, il est amené à dire, le barbare, ici, c'est moi. Alors quand on sait que le latin est la langue porteuse de la culture latine, et que, évidemment, à cette époque-là, les armées romaines avaient contribué à la diffusion de cette langue, se retrouver dans un endroit où on n'a plus personne à qui parler dans sa langue maternelle, pour Ovide, c'est l'équivalent d'une espèce de mort. Et c'est bien ce qu'avait voulu l'empereur Auguste.
Et on ne sait pas pourquoi il a été exilé.
Et on ne sait pas pourquoi. Alors je vois que vous commencez, Adèle, par ce qu'il y a de plus mystérieux et qui est aussi de nature à exciter le plus la curiosité de nos auditeurs. Effectivement, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi. On sait quand même pourquoi Ovide a été exilé. Il le dit lui-même, il a été exilé pour deux raisons qui se sont combinées, à savoir, je le dis en latin, un carmen et un error.
Alors, et en français, qu'est-ce que ça donne?
Alors voilà, j'allais vous dire. En français, ça donne la chose suivante. Ça donne un poème et une erreur. Le poème, quel est-il? C'est L'art d'aimer. L'art d'aimer qu'Ovide avait publié une dizaine d'années plus tôt. Alors, plutôt par rapport à la date de son exil, qui est 8 après Jésus-Christ. Donc, une dizaine d'années plus tôt, il publie L'art d'aimer. Et L'art d'aimer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, L'art d'aimer, c'est un manuel de séduction. Il faut comprendre aimer par séduire. Mmh. Pour parler de façon un petit peu familière, on pourrait dire c'est un manuel de drague. et de drague, non pardon, de séduction à l'usage des messieurs, mais aussi à l'usage des dames. Ce qui est tout à fait original.
C'est ça qu'on ne lui pardonne pas, en fait. C'est pas d'avoir écrit un manuel de séduction, c'est que celui-ci soit adressé aux dames également.
C'est le tout. C'est le tout. Et il faut comprendre pourquoi ce manuel, qui, si on le lit, il est très facile d'accès. Il y en a des éditions très, très bon marché, et par conséquent, on peut se le procurer et le lire avec plaisir. Si on le lit, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'effectivement, il donne, en rapport avec l'époque de son temps, tout un tas de conseils, où séduire, comment séduire, etc., etc. Mais il faut savoir que son temps, justement, c'est-à-dire les premiers temps du Principat, de ce régime que l'empereur Auguste met en place une fois que les guerres civiles sont terminées, il faut savoir que le Principat va de pair avec une refondation morale. L'empereur Auguste promulguera des lois sur le mariage, des lois sur le divorce, pour faire en sorte que la famille traditionnelle se revivifie, se reconstitue, parce qu'elle avait tendance un petit peu à se déliter. Donc, même si Ovide dit bien que ce manuel n'est pas fait pour les matrones romaines, qu'elles n'auront absolument pas à suivre ses préceptes, puisque d'office, elles sont exclues de ce jeu de séduction. Bref, il a beau dire ça, c'est vraiment aller à contre-courant que de publier ce genre de livre. Le souci, c'est que ça remonte 10 ans à peu près avant la date de son exil. Et par conséquent, il y a autre chose qui se greffe.
Une chose qu'il aurait vue.
Autre chose qu'il aurait vue, oui. Voilà, je vous propose une toute petite lecture d'un extrait des Tristes. Les Tristes, ce sont des lettres en vers que Ovide envoie depuis son exil de Tome à ses correspondants romains pour essayer d'obtenir, bien sûr, son rappel. Qu'est-ce qu'il dit dans une élégie des Tristes ? Il lit la chose suivante. Il parle de ce spectacle qu'il a vu, dont il ne nous dira jamais en quoi il a consisté. Bref, il dit la chose suivante. « Sans ce qui vient de me nuire, hélas, j'aurais conservé l'approbation que si souvent tu m'accordas. » Quand il dit « tu », il parle à l'empereur. « Mais je viens de périr. Il a suffi pour couler mon bateau, tant de fois préservé, d'une tempête. Je n'ai pas reçu qu'un petit paquet d'eau. Les flots de l'océan se sont abattus sur ma tête. » Pourquoi ai-je vu ça et rendu mes yeux criminels ? L'imprudent que j'étais s'est retrouvé coupable.
Pourquoi ai-je vu ça ? C'est tout ce que l'on sait, c'est qu'il a vu ça, qui ne sera jamais nommé, qui ne sera jamais décrit, mais qui lui valut d'être exilé et d'être lui-même complètement transformé. Car l'exil, pour Ovide, n'est pas simplement douloureux parce qu'il est loin de Rome et parce qu'autour de lui on parle une autre langue, il le vit lui-même comme une atteinte à sa propre personne et comme une forme de déchéance morale et physique. C'est presque comme si le métamorphoseur se retrouvait métamorphosé.
Écoutez, je crois que vous avez trouvé une formule qui décrit très exactement le sort d'Ovide. Le métamorphoseur s'est retrouvé métamorphosé, et ce sur beaucoup de plans.
Écoutons-le ici, donc c'est un extrait des Tristes, le chant 3, interprété par Georges Clès.
Je suis, hélas, tombé pour toujours en langueur. Que mon corps soit contaminé par mon esprit malade, ou que mon mal provienne de cette région, depuis que j'ai atteint le pont, l'insomnie me tourmente, j'ai la peau sur les os, pas un plat ne me plaît. La couleur qu'en automne, au premier coup de froid, on voit aux feuilles quand l'hiver nouveau les a meurtries, c'est la couleur que l'on me voit. Mes forces m'abandonnent, et j'ai toujours à me plaindre d'une douleur. Ma tête ne va pas mieux que mon corps. Ils sont tous deux tout aussi mal en point, et c'est double souffrance.
Pour comprendre cette souffrance, Jean-Luc Lévrier, il faut remonter un peu en amont dans le contexte politique et celui de l'écriture des Métamorphoses. Parce que, même s'il est cocasse d'entendre l'auteur des Métamorphoses se plaindre que sa tête ne va pas mieux que son corps, qu'ils sont tous deux aussi mal en point, lui qui ne cesse de décrire les transformations en animaux, en végétal, en autre chose que les êtres humains eux-mêmes, et bien les personnages qu'il met en scène, cette souffrance, elle est double aussi, parce qu'il avait tisser une sorte de lien avec Auguste, un lien extrêmement ambigu que vous allez nous présenter maintenant et qui fait qu'on peut lire toutes les métamorphoses, tout le texte, les quasiment 230 métamorphoses qui sont présentes, comme étant une sorte de métaphore de son propre rapport à Auguste. Cette dimension politique, elle est présente, c'est en tout cas ce que vous soutenez, Jean-Luc Lévrier.
Oui, effectivement, quand je vous ai proposé d'intervenir sur le sujet métamorphose et politique, après tout, vous auriez pu me dire, mais est-ce que la politique est au cœur des métamorphoses ?
Bien, vous avez désormais 30 minutes pour nous le prouver.
Écoutez, j'allais commencer par vous dire non. Non, la politique n'est pas au cœur des métamorphoses. Ce qui est au cœur des métamorphoses, et je crois que Hélène Vial, qui intervient demain, le démontrera à merveille, ce qui est au cœur des métamorphoses, c'est la métamorphose. Ceci dit, les métamorphoses peuvent être abordées par bien des biais et celui que j'avais choisi était celui de la politique. Alors, pour quelle raison ? Eh bien, pour la raison suivante. Si on rapproche le tout début et l'extrême fin des métamorphoses, c'est-à-dire le prologue et l'épilogue, on peut avoir l'impression qu'Ovide va très exactement dans le même sens qu'Auguste. Je m'explique. Au début des métamorphoses, il fait bien comprendre que, dans un tout premier temps, il y avait le chaos, et que, de métamorphose en métamorphose, le chaos s'est organisé. Xavier Darcos a très bien expliqué ça hier, je n'y reviens pas. Le chaos s'est organisé, et il nous dit, à la fin, par conséquent, du livre 15 des métamorphoses, il nous dit la chose suivante. Quand je vais lire le passage, et quand je dis « il », c'est d'Auguste qu'il est question. Alors voilà ce que nous dit Ovide. « Quand la paix régnera sur terre, il se consacrera au droit civil et légiférera très justement. Il réglera les mœurs sur son exemple et, regardant l'avenir et ses descendants, il ordonnera, dans sa prévoyance, à l'enfant-né de son auguste épouse de porter à la fois son nom et le poids de l'Empire. » Et quand il aura vécu aussi longtemps que Nestor, il siégera au ciel, parmi les siens, parmi les astres.
Et là, il effectue ce qu'on appelle une apothéose, c'est quand un corps humain se change en étoile. On a lu hier celle de Jules César, magnifique. Il met Auguste sur le même plan. C'est dire à quel point Auguste ici n'est pas simplement, la personne qui est présente dans le contexte politique de rédaction des métamorphoses. Il est présent au sein même de ce texte.
Oui. Et effectivement, on pourrait se dire, c'est magnifique, Ovide est effectivement un supporter d'Auguste, puisqu'il prévoit cette apothéose finale, cette transformation en astre, ce catastérisme, comme on dit en termes techniques, et d'une certaine façon, Ovide présente cette fin de règne, c'est-à-dire cette métamorphose d'Auguste, comme le dernier terme d'un processus qui aurait commencé au moment du chaos, qui se serait déroulé sans rupture, sans solution de continuité de métamorphose en métamorphose, et qui aurait trouvé son terme, son télos, comme disent les Grecs, avec le règne d'Auguste. Télos, c'est-à-dire la fin spatio-temporelle, mais aussi le but atteint, la pleine réalisation. Donc, d'une certaine façon, les métamorphoses nous raconteraient comment Auguste est parvenu à réaliser le destin de Rome, et à le réaliser de telle sorte qu'après lui, plus rien ne bouge. On le voit bien, et c'est conforme à la propagande augustéenne. La paix va régner éternellement, ce sera un retour à l'âge d'or, on vivra un éternel printemps. Donc, ce qui me semble extrêmement curieux, c'est que dans un premier temps, à titre programmatique, dans le prologue, Ovide nous dit « les choses ne vont pas cesser de changer » et à la fin, il nous dit « tout se fige lorsque Auguste arrive ». Les seules métamorphoses envisageables, ce seront celles des successeurs d'Auguste. Donc, un processus central dans l'œuvre serait démenti par la fin de l'œuvre. Non, par l'œuvre elle-même, parce que la fin de l'œuvre semble le conforter. L'œuvre elle-même ne cesse de nous parler de mouvement, de changement, de fluidité. Et c'est cette contradiction qu'il faut examiner, parce que c'est dans cet examen que l'on trouvera, très exactement, le rapport d'Ovide à la politique et à l'idéologie impériale.
Ce que vous voulez dire, c'est que dans la préface et dans l'épilogue, Ovide semble destiner son texte à Auguste et en faire un portrait très, très flatteur et très élogieux, le comparant quasiment à un dieu, alors que dans le corps du texte et au gré des métamorphoses, on se rend compte qu'il est beaucoup plus ambivalent et qu'il va pouvoir jouer de cette métaphore pour être en réalité davantage critique que flatteur. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça.
Peut-être dites-nous deux mots d'Auguste et du règne d'Auguste, parce qu'il faut bien qu'on puisse se représenter à quoi ressemblait ce règne pour comprendre cette ambivalence d'Ovide à son égard.
Oui, alors qu'est-ce qu'il faut rappeler très rapidement? Il faut rappeler que Auguste a eu la particularité d'intervenir à la fin de la République, à un moment où justement la République était en crise depuis, on va dire, depuis un siècle, hein, on va dire ça comme ça. La République était en crise, il y avait des guerres civiles qui opposaient, pour la dernière, parce qu'il y en a eu plusieurs, qui opposaient celui qu'on appelait alors Octave à celui qu'on appelle Marc-Antoine, et qui, par conséquent, se déchirait pour obtenir le pouvoir.
Octave, c'est celui qui deviendra Auguste. Hein.
Octave, c'est celui qui deviendra Auguste. Marc-Antoine, c'est celui qui avait pour allié la fameuse Cléopâtre. Donc, en 31 avant Jésus-Christ, à la bataille d'Actium, c'est une bataille navale qui se déroule au large de la Grèce, dans la mer Ionienne, lors de la bataille d'Actium, Octave remporte la victoire, et par conséquent, il est maître du pouvoir. Il est maître du pouvoir, et de façon très bizarre, il va lui-même se transformer en métamorphoseur. Vous me passerez le mot, hein, il n'est pas très fréquent, mais il existe. Pourquoi est-ce qu'Auguste est un métamorphoseur, aussi doué qu'Ovide, mais dans son domaine, bien sûr. C'est un métamorphoseur politique, pour la raison suivante. Il va prendre la République, qui était le régime en place, hein, depuis que les rois avaient été chassés de Rome en 509, donc ça faisait déjà un bon bout de temps, il va prendre la République et il va la métamorphoser en un régime autoritaire. En un régime autoritaire, qu'il n'appellera pas royauté, parce que la royauté était un régime détesté à Rome, honni, impossible de vouloir être roi. À sa façon, Jules César en avait fait un peu les frais, puisqu'on le soupçonnait de vouloir s'emparer de la royauté, et que ça avait été une des raisons pour lesquelles il avait été assassiné.
Donc, en 44, un an avant la naissance d'Ovide.
Oui, vous faites bien de le rappeler.
44 parce que avant Jésus-Christ.
Ça nous fait comprendre dans quel contexte Ovide arrive. Ovide arrive dans un contexte où la situation est apaisée. Ce n'est plus la génération précédente, hein, celle de Virgile, par exemple, qui a vécu en plein dans ses difficultés, dans ses guerres, dans ses problèmes. La situation est apaisée. Donc, qu'est-ce qui va contribuer à l'apaisement? La fin des guerres civiles, bien sûr, la bataille d'Actium, mais il faut ensuite que cela perdure. Et par conséquent, pour faire perdurer cela, Octave a la très bonne idée de ne pas renoncer à la République. Simplement, il va tellement aimer la République qu'il va s'arroger tous les pouvoirs que la République avait répartis sur différents magistrats. Je ne vous en fais pas la liste, je pourrais présenter ça plus dans le détail sur mon blog où je laisserai
oui,
un
vous
article.
Vous animez un blog hein, sur les amis d'Ovide, hein, qu'on peut trouver en lien, qu'on mettra ensuite sur le site.
Oui, il suffit de taper les amis d'Ovide et on le trouve. Donc je donnerai le détail sur le blog, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il aimait tellement la République qu'il a cumulé sur sa seule personne tous les pouvoirs des magistrats et de tous ceux qui détenaient du pouvoir sous la République.
C'est une jolie façon de le dire, il aimait tellement la République qu'il l'a tué.
Il y a de ça. Les historiens sont partagés. Hein. Les historiens disent c'est un régime autoritaire caractérisé. D'autres disent c'est un régime qui a permis à la République de survivre, avec bien sûr au-dessus l'empereur, que l'on n'appelait pas l'empereur d'ailleurs, que l'on appelait le princeps. Et le princeps, ça veut dire le premier, littéralement le premier parmi les sénateurs. Autrement dit, c'était censé n'être qu'un titre honorifique, alors que c'était bel et bien le titre de quelqu'un qui exerçait le pouvoir de façon personnelle et autoritaire.
On va entendre une des façons qu'a Ovide de mettre en scène Auguste sous les traits peut-être de Jupiter. On lit clairement au livre 15 des Métamorphoses ceci: Jupiter règne sur les hauteurs de l'éther, les royaumes du triple monde, Auguste sur la terre, ils sont tous les deux père et guide. La comparaison entre Auguste et Jupiter est claire, nette et très explicite. Prenons un exemple encore plus parlant, un extrait du deuxième livre des Métamorphoses, Le mythe d'Europe, où l'on voit Jupiter se transformer en taureau. Écoutez.
Le père souverain des dieux, dont la dextre est armée d'un triple feu et qui d'un signe ébranle l'univers, revêt l'apparence d'un taureau, se mêle au troupeau, mugit et sur le tendre herbage exhibe sa beauté. Il est aussi blanc que la neige qu'aucun passant n'a foulé d'un pied grossier, ni l'austère imbibé de pluie. Son cou est musculeux, son fanon pend jusqu'aux épaules. Ses cornes, certes petites, semblent l'œuvre d'un orfèvre, plus transparente qu'une gemme de la plus belle eau. Son front n'est pas menaçant, ni son regard redoutable. Tous ses traits expriment la paix. La fille d'Agénor s'émerveille qu'il soit si beau et si peu agressif. Mais, si doux soit-il, elle a d'abord peur de le toucher. Bientôt, elle s'approche, tend des fleurs aux mufles blancs. L'amant, joyeux, en attendant le plaisir qu'il escompte, lui baise les mains, qu'il a du mal à s'en tenir là. Tantôt, il folâtre et bondit sur l'herbe verdoyante. Tantôt, sur le sable fauve, il pose son flanc de neige. Peu à peu, la peur la quitte. Il donne alors son poitrail à flatter à la jeune fille, ses cornes à orner de nouvelles guirlandes. La jeune princesse osa même, sans savoir ce qu'elle faisait, s'asseoir sur le taureau. Insensiblement, le dieu quitte alors la terre ferme, commence par plonger dans les flots ses sabots trompeurs, puis il gagne le large, emportant par la pleine mer sa proie. Elle a peur. Derrière elle, elle voit s'éloigner la côte. Une main tient une corne, l'autre est posée sur l'échine. Ses vêtements ondoyants flottent au vent.
Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et ce texte magnifique issu des Métamorphoses d'Ovide, non moins magnifiquement interprété par le comédien Georges Clès. Une émission en compagnie de Jean-Luc Lévrier, l'amoureux d'Ovide, qui anime donc ce blog sur les amis d'Ovide que vous pourrez trouver en ligne. Et Jean-Luc Lévrier, il faut quand même rappeler pour comprendre ce texte très beau, très poétique, très sensuel, qu'il faut bien garder en tête qui est Jupiter pour comprendre l'intérêt de cet acte. C'est-à-dire que Jupiter, qui est bon, le dieu en majesté, le maître de l'Olympe, celui qui détient la foudre, qui a le pouvoir sur le tonnerre et sur les éclairs, eh bien, il a un faible, c'est qu'il tombe. Il a une forte propension à tomber amoureux, très rapidement et très souvent. Et souvent de nymphes ou de mortels. Et donc, pour essayer de rendre honneur à son amour et de satisfaire son désir, il va n'hésite pas à se transformer et à jusqu'à se transformer en taureau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu ridicule aussi à ce dieu magnifique qui devient un taureau blanc qui porte sur son dos une jeune femme qui a peur de lui, non ?
Oui, effectivement, vous avez raison de le dire. Jupiter, c'est celui qui a donné un ordre à l'univers et qui veille à ce que cet ordre-là ne soit pas bouleversé. Donc ici, puisque il a, comme vous l'avez justement dit, une propension très forte à tomber amoureux de toutes les belles personnes qu'il aperçoit, il a la nécessité de renoncer à sa grandeur divine pour parvenir à séduire celle qu'il a envie de séduire. Sa grandeur divine, c'est les éclairs, c'est la foudre, c'est le tonnerre. Et s'il lui prenait l'idée de se présenter sous cette forme, eh bien, il arriverait à sa belle, la mésaventure, qui est arrivée à s'émêler lorsque la jeune princesse voulait le voir dans toute sa puissance. Mais ça, c'est une autre histoire. J'en reviens donc à Europe. Il se métamorphose en taureau, le taureau étant non pas l'animal emblématique de Zeus, c'est l'aigle l'animal emblématique de Zeus. L'aigle est autorisé à tenir entre ses serres la foudre.
L'animal... Zeus Jupiter.
Zeus Jupiter, voilà. Zeus pour les Grecs, ouais. Jupiter pour les Romains. Jupiter restons à Rome, oui. Jupiter apparaissant sous les traits d'un taureau, apparaît sous les traits de l'animal qu'on lui sacrifie. C'est l'animal qu'on sacrifie à Jupiter lorsqu'on le remercie, par exemple, lorsque le général triomphateur remercie Jupiter de lui avoir accordé la victoire. Et ici, on le voit effectivement s'avilir un petit peu, faire des ronds dans le sable, se manger dans la main d'une petite jeune fille, ce qui est à la fois plaisant, mais ce qui en dit long aussi sur la méfiance que les Romains éprouvaient vis-à-vis de l'amour. Parce que l'amour, qu'a si bien chanté Ovide, dont Ovide a été le chantre, hein, il se présente lui-même comme le baladin des amours tendres. L'amour pour un Romain, c'est ce qui peut faire perdre sa maîtrise, la maîtrise de soi. C'est ce qui peut aliéner la personne. Or, un Romain doit être maître de soi et l'empereur doit être maître de soi comme de l'univers. Donc, apparaître sous ces traits-là, ce n'est pas effectivement très flatteur.
Oui, mais si c'est le dieu lui-même, comme le dieu est un dieu, elle peut tout à fait apparaître comme un taureau sans être ridiculisée. Ce n'est pas le cas d'Auguste. C'est-à-dire que la charge critique fonctionne si on identifie Jupiter à Auguste dans ce texte.
Et ça, c'est vraiment un automatisme parce qu'à Rome, il y a deux dieux qui sont identifiés clairement à Auguste. C'est le dieu Jupiter, vous avez fait la lecture tout à l'heure, l'un règne sur l'univers, l'autre règne sur la Terre, mais ils ont un rôle équivalent, d'instauration et de maintien de l'ordre. Et l'autre, c'est Apollon, pour des raisons dans le détail desquelles nous pourrons entrer si vous le souhaitez.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que dans ce mythe d'Europe, on a, c'est une manière pour Ovide, en faisant apparaître Jupiter sous les traits d'un taureau, de se moquer d'Auguste.
C'est une manière de se moquer d'Auguste. Pour tout vous dire, la mythologie est une matière très malléable. On peut la comparer, c'est une comparaison que Ovide lui-même fait dans ses Métamorphoses. On peut la comparer à de la cire. Autrement dit, on peut lui donner la forme qu'on veut. Elle reste ce qu'elle est, mais elle prend des formes différentes. Et Ovide dit même que la cire est d'autant plus apte à se transformer qu'on la transforme. Donc, que fait le pouvoir? Il utilise la mythologie a son avantage. Par exemple, en créant des statues qui illustrent des mythes à l'occasion desquels on voit un dieu qui se venge. Ça veut dire, si vous ne filez pas doux, eh bien, vous aurez la même punition que tel héros mythologique qui a subi la vengeance des dieux. Mais Ovide, qui s'y connaît en mythologie, vous pouvez me croire, Ovide utilise à sa façon la mythologie est vide de son contenu, le contenu idéologique que l'empereur voulait lui donner. Il la retourne comme un gant pour lui faire dire le contraire de ce que l'empereur aurait aimé qu'elle dise.
Notons au passage qu'il s'agit du mythe Europe, qui propose comme origine de l'Europe un enlèvement.
Alors voilà, c'est quelque chose de tout à fait, effectivement, digne d'être noté. Europe, puisque c'est le nom de la petite jeune fille, Europe a mal commencé, si on peut dire, son accès à la notoriété. Elle a commencé par un enlèvement, autrement dit une violence, une brutalité, suivie d'une union dont on ne nous dit pas si elle a été consentie, une fois que Jupiter a renoncé à sa forme de taureau pour prendre forme humaine. Donc, oui, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on devrait répéter plus souvent. Il y a le fait que Europe n'est pas la quintessence de ce qu'il y a de culture en Occident. Europe vient du Moyen-Orient. Voilà, je laisse les auditeurs méditer.
Laissons-les méditer en les conduisant vers un second exemple, un autre texte. Cette fois-ci, Auguste n'apparaît pas sous les traits de Jupiter, mais sous ceux d'Apollon qui va poursuivre Daphné dont il est amoureux. Alors c'est assez étrange parce qu'Apollon, amoureux de Daphné, eh bien se sent complètement impuissant. Malgré son statut de dieu, il ne parvient pas à ses fins. Écoutez.
Plus vite que le vent léger, la nymphe fuit sans s'arrêter, sans l'écouter. Attends, fille du Péné, je n'ai rien d'un ennemi. Attends, nymphe. Tu me fuis comme la brebis, le loup, la biche, le lion, les colombes craintives, l'aigle. Ce sont leurs ennemis. Moi, je te poursuis par amour, pour mon malheur. Ne va pas tomber, épargne à tes jambes l'injurieuse griffe des ronces. Ne souffre pas par moi. Les terrains que tu parcours sont malaisés. Ralentis, je t'en prie, retiens ton pas. Je ralentirai ma course. Vois cependant à qui tu plais. Pas à un montagnard, pas à un hirsute berger qui garderait ses bœufs et ses moutons. Tu ne sais, imprudente, qui tu fuis, et c'est pour cela que tu fuis. Je règne sur le sol de Delphes, sur Claros, sur Ténédos, sur Patara. Mon père est Jupiter. Par moi sont révélés passé, présent et avenir. Musique et chant par moi s'accordent. Ma flèche est infaillible. Moins pourtant que celle qui a fait une blessure à ce cœur que rien n'occupait. J'ai inventé la médecine. On me nomme partout le secourable. Et je détiens le pouvoir sur les herbes. Mais, hélas, aucune herbe ne peut guérir de l'amour, et mon art utile à tous est inutile à son maître.
C'est en vain qu'il parle. Daphné ne l'écoute pas. Elle court plus vite encore. Le vent soulève sa robe. Sa chevelure flotte derrière sa tête comme un petit étendard. Le dieu comprend que ses discours n'ont aucun pouvoir sur la jeune fille. Il se résout à la prendre de force et redouble de vitesse.
Tel un chien de chasse aperçoit un lièvre et s'élance dans la plaine sur ses traces encore chaudes. Il dévore en quelques bonds la distance qui le sépare de sa proie. Il est sur le point de saisir le fuyard. Le museau tendu, il le touche presque. Et le lièvre croit déjà sentir les crocs s'enfoncer dans sa chair.
Tel Apollon va bientôt tenir la vierge fugitive. Elle sent son souffle haletant sur ses cheveux et sur son cou.
Brisée de fatigue, elle est devenue toute pâle. Ses yeux gonflés de larmes se tournent vers le fleuve natal.
Ô Père, si les fleuves sont divins, viens à mon secours. Par une métamorphose, délivre-moi de ma dangereuse beauté.
Cette prière est à peine achevée qu'un lourd engourdissement saisit la jeune fille. Son ventre et ses seins d'avril se couvrent d'écorce. Ses cheveux se changent en feuilles, ses bras deviennent des branches, ses pieds, si rapides tout à l'heure, s'enfoncent racines dans le sol. Sa beauté ne subsiste plus qu'en le seul éclat des feuilles nouvelles.
Cette transformation ne calme pas Apollon. Il embrasse de toutes ses forces l'arbre dans lequel un jeune cœur palpite encore. Sa bouche cherche, éperdue, mais ne rencontre qu'une écorce qui lui déchire les lèvres.
Puisque tu ne peux plus être ma femme, on te nommera désormais mon arbre, ô laurier.
Et ainsi, Daphné fut-elle changée en laurier. C'était un extrait de la Soirée de Paris, diffusée sur France Culture le 3 février 1967, qui suivait donc l'interprétation par Georges Classe du mythe de la métamorphose de Daphné. Expliquez-nous, Jean-Luc Lévrier, comment se fait-il qu'un dieu tel qu'Apollon, tout puissant, puisse faillir dans ses désirs, puisse ne pas parvenir à convaincre Daphné de son amour, et lui qui est le dieu à la fois de la médecine, lui qui est le dieu de l'amour, et bien puisse se retrouver finalement face à un échec dans son entreprise de séduction de Daphné. Que s'est-il passé ?
Eh bien, je ferai une lecture politique du mythe en question, bien sûr. Vous avez rappelé que Apollon est le dieu de la divination. C'est exact. Donc, le dieu qui aurait pu prévoir que chercher à séduire Daphné le menait à l'échec. C'est aussi le dieu de la poésie. Et à ce titre, c'est lui qui conduit les muses. On l'appelle Apollon Musagète, en pareil cas. Et parmi les muses, il y a Calliope, à la belle voix, muse de l'éloquence. Mais Calliope, manifestement, ne lui a pas soufflé les mots qui auraient pu permettre à Apollon de persuader Daphné de céder à ses avances. Et troisième point important, Apollon est aussi le dieu de la médecine. C'est le père d'Esculape, le dieu médecin, le dieu guérisseur. Et le dieu de la médecine, et c'est lui qui en fait l'aveu dans l'extrait qui vient de nous être lu, le dieu de la médecine reconnaît qu'il n'a pas été capable de guérir le mal d'amour dont il souffre. Car l'amour est bien sûr conçu comme un mal, une blessure, une lésion, c'est normal. L'amour en question provient de la flèche que Cupidon a décochée.
Mais c'est ça l'origine de tout, c'est que Cupidon a décoché une flèche qui est venue se planter dans le corps d'Apollon, une autre dans le corps de Daphné, qui fait que Apollon fut condamné à être amoureux et Daphné fut condamné à ne jamais aimer en retour.
Très exactement.
C'est Cupidon qui se situe à l'origine de ce sortilège.
Et par conséquent, il faudrait remonter à l'étape précédente. L'étape précédente mettant en scène Vénus, déesse de l'amour, et Cupidon. On va dire que c'est son bras armé. Et Vénus fait la constatation suivante. Je règne parmi les dieux d'en haut, c'est-à-dire les dieux de l'Olympe. Je règne parmi les mortels sur Terre, donc parmi les hommes. Je règne dans l'élément liquide également, mais il y a un endroit où je ne règne pas, c'est le monde souterrain, c'est le royaume de Pluton. Et par conséquent, il faut que Pluton tombe amoureux.
Il faut que Pluton tombe amoureux,
et Pluton tombera amoureux parce que le petit Cupidon va lui décocher une flèche. Alors ça, c'est un exemple du pouvoir de Cupidon, mais ce qu'il faut savoir pour comprendre la raison pour laquelle Apollon est tombé amoureux de Daphné, c'est que justement, Apollon s'était moqué de Cupidon, qu'il avait vu avec son petit arc, comme il est représenté, un petit dieu poupin avec son carquois, ses flèches mignonnes et son petit arc. Et Apollon qui venait de tuer le serpent Python à coups de flèche, vous vous rappelez l'histoire de Delphes et du sanctuaire. Bref, Apollon qui venait de tuer le serpent Python et qui était jeune encore, est tout fier de sa victoire et se moque du dieu de l'amour. Lequel dieu de l'amour, vexé, lui décoche une flèche, vous l'avez dit, la flèche qui fait tomber amoureux, et décoche en même temps à Daphné une autre flèche, elle a la pointe en plomb et non pas en or, une flèche qui empêche d'être amoureux. Sur cette base-là, les choses pouvaient difficilement bien se terminer. Alors ceci dit, pourquoi est-ce que Ovide utilise ce mythe d'Apollon? Eh bien parce que Apollon est le dieu protecteur d'Auguste. Et il est le dieu protecteur en particulier parce que sur la terre ferme, là où s'est déroulée la bataille navale d'Axium, il y a un sanctuaire d'Apollon. Donc Auguste va interpréter sa victoire comme une victoire accordée par tous les dieux en général, mais par Apollon en particulier. Et par conséquent, il va développer à Rome le culte d'Apollon, instaurer des jeux, lui consacrer un temple, faire en sorte que sa résidence privée sur le Palatin communique avec le temple d'Apollon. Donc, à Rome, qui dit Apollon dit Auguste. Et qui met en échec le dieu protecteur d'Apollon, jette des doutes sur des doutes sur la capacité d'Auguste à réaliser son programme. Voilà mon interprétation politique du mythe d'Apollon et de Daphné.
Et pourquoi Daphné a-t-elle changé en laurier? Parce qu'aujourd'hui, on représente Jules César avec une couronne de laurier sur la tête.
Voilà, alors là, ça serait, comment dire, une concession au régime, on va dire ça comme ça, et à l'histoire. On sait très bien que les généraux, à l'occasion de la cérémonie du triomphe, remontaient jusqu'au Capitole en passant par la voie sacrée et étaient couronnés de lauriers. Donc, on va dire que le mythe a une valeur explicative. Il nous permet de comprendre ce qui est à l'origine de la pratique. Qu'est-ce qui est à l'origine de la pratique? C'est cet amour d'Apollon pour Daphné, pour le laurier. Et tout comme Apollon récompense les vainqueurs dans les compétitions poétiques, il récompensera également les vainqueurs à l'occasion de conflits militaires. Donc, ce qui reste de Daphné, Ovide nous le dit, c'est son éclat. Et cet éclat, on le retrouve sur le laurier qui a une feuille luisante et par conséquent, pour honorer Daphné devenue le laurier, Auguste fait d'elle son arbre emblématique et couronne le vainqueur d'une couronne de laurier.
Le génie de Ovide tient, au-delà de l'interprétation politique très convaincante que vous nous proposez, aussi au récit même d'Ovide qui, lorsqu'il décrit des métamorphoses, ne nous épargne aucun détail. On a entendu la métamorphose de Daphné en laurier. Il décrit comment tout son corps se fige, comment de ses mains sortent des branches, comment ses cheveux deviennent des rameaux. Si bien qu'on vit vraiment en temps réel, dirions-nous, cette transformation, cette métamorphose qui n'est pas simplement un état qui devient un autre, c'est vraiment le passage d'un état à l'autre. Ça, c'est très important. Et à titre d'exemple, il y a un autre texte qui, lui aussi, est là encore le récit d'une punition. Décidément, les dieux tels que dépeints par Ovide sont vraiment aiment punir les hommes et ceux qui lui font du tort. Et ils sont souvent même injustes, souvent en colère. On en parlera demain, ça, de les dieux passionnés dans les métamorphoses d'Ovide. Mais alors, écoutez cet extrait où, cette fois-ci, c'est Apollon qui va vouloir punir Marsyas, puisqu'à l'occasion d'une compétition musicale, l'un joue de la lyre, l'autre de la flûte, et bien Marsyas s'est avéré meilleur qu'Apollon. Alors voici ce comment Ovide raconte ensuite la punition qu'Apollon va lui infliger. Il écrit ceci. « Lorsque je ne sais qui eut rapporté comment finir les hommes du pays lycien, un autre rappela ce que fit Apollon au satyre qui avait perdu la flûte de Minerve. Pourquoi m'arracher à moi-même ? Ah, criait-il, que je regrette ! Ah, c'est trop cher payé pour un pipeau ! » Mais malgré ses cris, il est écorché vif. Son corps n'est plus qu'une plaie. Son sang coule de partout. On voit ses muscles mis à nu, ses veines sans la peau battent en palpitant. On pourrait compter ses viscères tressaillants et les fibres de ses poumons traversés par le jour. Les faunes, rustiques puissances des bois, les satyres, ses frères, sont toujours chers Olympus. Les nymphes et ceux qui faisaient paraître sur ces montagnes bêtes à laine et bétail à cornes, tous le pleurèrent. Les larmes, en tombant, mouillèrent la terre fertile. Elle s'en imprégna, les recueillit, s'en abreuva par ses veines profondes. Transformées en eau, elles vont à l'air libre. Ce fleuve qu'emporte vers la mer ses rives pentues, c'est le Marsyas, le plus limpide de Phrygie. C'est Marsyas qui a raison, Jean-Luc Lévrier, c'est cher payé pour un pipeau quand même que cette condamnation absolument abominable et qui nous est racontée dans tous les détails.
Effectivement, Marsyas n'a pas tort, mais il faut se souvenir quand même que Marsyas s'était rendu coupable d'une faute jugée très grave par les anciens. On la désigne le plus souvent sous son nom grec, on parle d'hubris, et on pourrait traduire ça par orgueil. Il avait défier un dieu. Et les anciens ne badinent pas avec l'hubris. Un rappel, lorsque Agamemnon abat une biche dans un bois consacré à Diane et se vante d'être meilleur archer que Diane, eh bien, Diane le prive de départ en direction de Troie, avec les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire le sacrifice d'Iphigénie si on veut que les vents se lèvent. Donc, commettre une faute de cette nature-là, ça se paye d'office très cher. Mais ce qu'il y a de particulier ici, c'est que Marsyas, qui a commis une faute, regrette sa faute, alors que bien souvent, mais je ne sais pas si c'est en rapport avec la thématique politique, mais bien souvent, ceux qui commettent une faute d'hubris en tout cas, s'entêtent dans leur faute et ne manifestent aucun regret, aucune repentance. Donc, ce qu'il y a ici de particulier, c'est que Apollon va exercer sa vengeance avec la cruauté que vous nous avez rappelée en lisant le texte, va exercer sa vengeance sans limite. Lui, le dieu de la raison, le dieu de l'ordre, mais aussi le dieu de la mesure, il se montre démesuré dans sa punition. Et par conséquent, ça fait quand même un peu désordre si on se rappelle qu'il faut lire par filigrane, le texte, et voir derrière la figure d'Apollon, la figure d'Auguste. Auguste, c'est en tout cas ce que le Sénat a fait graver sur un bouclier d'or qu'il lui a offert. Auguste a, entre autres vertus, celle de la clémence. Eh bien, la clémence exercée dans ces conditions, est quand même un petit peu le contraire de la clémence.
En fait, on pourrait aussi interpréter ce que vous dites comme étant la puissance inhérente au mythe et même que détiennent peut-être les écrivains en général face à un pouvoir politique. C'est-à-dire que le mythe, parce qu'il n'est pas véhicule de vérité, comme doit l'être le logos à l'époque, hein, la parole vraie, eh bien peut se permettre, par l'utilisation d'images et de métaphores et de récits fictionnels, et de faire passer une vérité qui avance masquée, mais qui est d'autant plus puissante. C'est la force du mythe en politique que vous nous décrivez.
Oui, faire passer une vérité, vous avez tout à fait raison, et une vérité qui permettra à celui qui veut la promouvoir à une époque où on n'est pas forcément libre de dire directement ce que l'on veut, une vérité qui pourra passer par le biais du mythe, par le biais de l'image, par le biais de la fable, puisque c'est par fable qu'on désignait les mythes à Rome. Mais c'est vrai dans la Rome antique, ça l'est à d'autres époques historiques. Si on se souvient par exemple de ce que fait Louis XIV, hein, Louis XIV, le roi soleil lui aussi, eh bien à Versailles il y a un bassin, c'est le bassin de Latone, dans lequel on voit des personnages représentés avec un corps d'homme qui se termine par une tête de grenouille. Qu'est-ce que ça vient faire là ? C'est en rapport avec une légende des métamorphoses et c'est en rapport avec une punition infligée par Apollon à des gens qui avaient porté atteinte à sa propre mère. Ça veut dire par conséquent que si les frondeurs qui, quand Louis XIV était jeune, avaient porté atteinte à la royauté, si les frondeurs se manifestent encore, ils risquent de subir des conséquences gravissimes.
Vous citez Louis XIV, on peut même, dans le contexte contemporain, trouver d'autres exemples. Voici au XXIe siècle l'utilisation du mythe par Benoît Hamon.
Ce projet-là n'est pas un projet sérieux. Et de surcroît, il dit tout d'un homme. Emmanuel Macron, c'est le candidat chimère. La chimère telle que décrite par Homère. Un lion devant, un dragon derrière, une chèvre au milieu.
Et c'est avec les langueurs d'Apollon de Jean-Philippe Rameau que nous nous quittons. Un grand merci à vous, Jean-Luc Lévrier, d'être venu nous parler d'Ovide aujourd'hui. Vous aviez un dernier mot à dire ?
Oui, je vous remercie Adèle de m'avoir donné l'occasion de le faire. Je voulais aussi remercier Georges Claes qui a lu les textes. Pour tout vous dire, quand il lit les extraits des Tristes, j'ai l'impression d'entendre Ovide. Et je voudrais dire une toute dernière chose. Il y a bien des choses qui se passeront en 2017 à propos d'Ovide, mais il y en a une...
C'est les 2000 ans de sa mort.
Voilà, c'est les 2000 ans de sa mort. Il y en a une qui me tiendrait particulièrement à cœur, à savoir qu'un opéra soit fait à partir des dernières années de la vie d'Ovide. L'opéra en question a un compositeur, c'est Patrick Burgan, qui est prêt à écrire la partition, a un librettiste... Il lui manque une structure qui puisse le prendre en charge. Donc s'il y a à l'antenne des ensembles musicaux, des maisons d'opéra qui seraient intéressées, qu'elles n'hésitent pas à rejoindre les Amis d'Ovide.
L'appel est lancé. Les Amis d'Ovide, on les retrouve sur votre blog, Jean-Luc Lévrier, qu'on trouve évidemment en ligne, Les Amis d'Ovide. Vous tapez ça sur votre moteur de recherche et vous arriverez sur ce blog. Vous avez traduit les Tristes, justement, dont nous parlons. Il y aura une édition à l'automne 2007. Vous allez préparer aussi un colloque à l'occasion des 2000 ans de la mort d'Ovide. Et ça, ce sera à Toulouse en octobre 2017. Toutes ces informations, vous les trouvez en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Sur France Culture, il est l'heure de retrouver comme tous les jours à cette heure-là les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour chère Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Et aujourd'hui, le titre du livre marron sur votre table, cette formidable collection, c'est Angoisse.
Exactement, c'est un livre écrit par Max Dora. C'est donc paru dans cette collection Voix libre aux éditions Max Milo. Alors il y a peu, j'avais parlé d'un livre paru dans cette même collection. C'était un livre de Simon Crichley sur les lettres de suicide. Alors là, après le suicide, comme vous l'avez dit Adèle, il est question de l'angoisse. On reste donc dans une tonalité quelque peu noire, mais pas désespérée là non plus, car l'angoisse, comme l'indique le titre et le sous-titre, recèle un double secret, celui de toucher chacun d'entre nous individuellement, mais celui aussi de nous toucher tous ensemble, et là assez également. C'est une première découverte que l'on fait en lisant la première partie de ce livre. Angoisse, déprime, délire, et bien à ces maladies qui nous affectent individuellement, il faut ajouter cette maladie géniale. Alors génial, pas en tant que tel, mais trouvaille géniale de Max Dora, la maladie de la valeur qui nous affecte collectivement, qui nous touche tous, assez démocratiquement, maladie où chacun d'entre nous doit savoir se vendre, devient une valeur d'échange et se doit d'être évalué, désigné, catalogué aussi par les autres jusqu'à jouer de lui-même le rôle qu'on lui a assigné. Et là, et c'est la deuxième découverte et aussi la deuxième partie de ce livre, parce qu'on joue un rôle, parce qu'on nous assigne une place, il y a quelque chose du cinéma dans nos vies. Mais plus que cela, il y a quelque chose du cinéma parce que s'y élaborent des montages. Les souvenirs que l'on garde sont triés, associés d'une certaine manière et font surgir un sens, un certain sens, et ils forment une identité complètement montée. Ce double secret, donc partagé avec les autres et avec soi-même, se noue ainsi au cœur de notre angoisse. Mais jusqu'où comprendre ce montage de nos consciences et de nos mémoires peut-il nous libérer ? Et jusqu'où avons-nous le pouvoir du cinéaste démiurge de recoller les morceaux ? Comme je le disais au début, l'angoisse n'a bizarrement rien ici de désespéré, car cette idée de montage qui se révèle, mais aussi cette idée de la maladie de la valeur, qui est peut-être su, mais qui est ici nommée, dévoilée à quelque chose de jubilatoire. Enfin, on se dit le secret que l'on a toujours su et on avait raison.
Merci Géraldine. L'ouvrage s'appelle donc Angoisse,
le double secret. C'est de Max Dora, c'est aux éditions Max Milo.
Merci beaucoup Géraldine, merci à Antoine Ravon qui a préparé cette émission, Nicolas Bouteloup, Olivia Garrigue, Marianne Chassor, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Anthony Thomasson la prise de son, Georges Classe donc à la lecture des textes. Plusieurs choses à vous annoncer en cette fin d'émission. Déjà demain, on se retrouve pour la suite de cette série sur les métamorphoses de vide. On parlera des passions des dieux en compagnie d'Hélène Casanova-Robin. Et jeudi, nous recevrons Hélène Vial qui parlera des métamorphoses. Je vous annonce également que les 15 et 16 mai prochains, toute la journée, eh bien, nous vous proposons d'assister ou de participer à l'enregistrement des émissions spéciales Bac Philo à la maison de Radio France. Si vous êtes professeur de terminale, de philosophie en terminale et que ça vous intéresse, eh bien, écrivez-nous sur la page des chemins de la philosophie ou sur notre compte Facebook pour dire que vous voulez participer ou bien assister avec votre classe. Vous pouvez faire les deux. Sachez qu'en plus, c'est sur 2 jours et que l'après-midi, vous pourrez assister et ou participer aux émissions spéciales Bac de sciences animé par Nicolas Martin. Donc toutes ces informations, vous les retrouverez en ligne sur notre site. Et puis ce week-end, le Centre Pompidou et France Culture présentent la 2e édition du week-end de la création et des idées. Imagine cette année autour du thème « La France dès demain ».